Lien Lang, je suis marié à Chloé et ensemble on a deux garçons. J'habite à Grenoble et je travaille au foyer évangélique universitaire de Grenoble. Et parmi les étudiants, on va commencer cet atelier et je vais commencer en priant. On prie. Notre Dieu, merci encore une fois de pouvoir nous retrouver à l'écoute de ta voix, de ta parole, celle qui juge nos sentiments, les sentiments de notre cœur. Nous prions pour que soyons à l'écoute de celle-ci et qu'elle nous nourrisse. Aide-nous, Seigneur, à mieux comprendre cette question de ta volonté. Amen. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Que dois-je faire cet été? Quel boulot, quelles études Dieu veut-il que je fasse? Avec qui dois-je me marier? Quel appartement veut-il que je loue? D'ailleurs, est-ce que Dieu veut que je sois locataire ou propriétaire? Comment connaître la volonté de Dieu pour ma vie? J'imagine que ces questions vous sont familières, que peut-être c'est des questions que vous vous posez actuellement. Ce sont les questions que nous entendons beaucoup parmi les chrétiens. Ce sont les questions que on se pose régulièrement quand on fait face aux grandes décisions de la vie. Cette question de la volonté de Dieu nous préoccupe beaucoup. On aimerait connaître la volonté de Dieu pour savoir quel boulot faire, quelle étude entreprendre, quelle personne épouser, pour savoir combien d'enfants avoir, dans quelle église aller, connaître la prochaine étape aussi dans notre vie. Et en fait, si on est déjà chrétien, cette volonté de Dieu, cette question de la volonté de Dieu nous préoccupe profondément. Pour vous dire la vérité, en fait, je crois qu'il n'y a vraiment que les chrétiens qui se posent cette question dans le monde. Parce que seuls les chrétiens, en fait, s'intéressent de connaître l'avis de Dieu concernant leur existence. À ma connaissance, les non-chrétiens ne se posent pas ce genre de questions. Ils ne se préoccupent pas de l'avis de Dieu concernant leur vie. Et la raison, c'est que, à la différence des chrétiens, en fait, ils n'ont pas cette relation privilégiée avec leur Créateur. Ils ne connaissent pas Dieu. Et ça, c'est la première chose que je voudrais dire, c'est qu'un chrétien authentique connaît Dieu et désire lui plaire. Et j'ai pas besoin de souligner trop ce point. Nous le savons, Dieu a un plan merveilleux pour notre vie. Mais la question qu'on se pose, bah, si c'est un plan merveilleux, c'est quoi ce plan pour moi? Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Et dans quelques instants, en fait, je vais critiquer la manière dont on se pose cette question, mais ne vous méprenez pas. Je pense sincèrement que cette question part d'un bon sentiment. Nous voulons plaire à Dieu si nous sommes chrétiens. Nous voulons sincèrement prendre de bonnes décisions dans notre vie pour lui. Mais j'aimerais commencer par faire une suggestion. J'aimerais suggérer que la question « Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie ?» n'est peut-être pas le meilleur point de départ pour connaître ce plan pour nous. En fait, démarrer avec cette question, peut en fait révéler trois choses. Trois choses qui, peuvent nous empêcher, de faire des choix, de prendre des décisions. La première chose que peut révéler cette question, c'est que, en fait, on est face à une multitude de choix. Nous avons, d'une manière générale, trop de choix. S'orienter dans la vie ressemble à la visite du rayon céréales du petit déjeuner de votre supermarché préféré. Moi, personnellement, je suis toujours bluffé par le nombre incalculable de marques et de genres différents de céréales qu'on trouve au rayon de mon supermarché. Et en fait, je suis tellement déboussolé, je vous avoue que quand je rentre dans ce rayon, en fait, je mets la main sur les yeux comme ça et je vais choper directement le paquet de céréales que je mange tous les matins. C'est un muesli au chocolat, si jamais ça vous intéresse. Et c'est pareil un peu avec la vie. On a trop de choix. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons la chance, le choix de pouvoir choisir si nous voulons nous marier ou pas, de choisir le pays dans lequel nous voulons vivre, de choisir la ville dans laquelle nous voulons vivre, faire un choix de nos études, choix d'un travail, choix d'une carrière, choix d'église, choix du nombre d'enfants, choix de logement, choix de moyens de transport et choix des céréales. C'est juste un constat. Nous bénéficions d'une liberté incomparable et nous devons réaliser une quantité astronomique de choix. Et parfois, c'est quotidiennement que nous devons faire énormément de choix. Et ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de l'homme. Et même récemment, par exemple, demander à ma mamie si jamais elle s'est posé la question de savoir quel boulot elle allait faire. Et elle vous dira qu'en fait, elle s'est jamais vraiment posé la question. En fait, il fallait vivre, payer ses factures. Et le premier job sans qualification dans le village qu'elle fréquentait, allait faire l'affaire. C'était beaucoup plus facile, peut-être, direz-vous, avant. Premier constat, donc nous bénéficions d'une liberté incomparable et nous devons réaliser une quantité astronomique de choix au point que ça nous paralyse parfois. Et ça, c'est la deuxième chose que je veux souligner. Nous sommes parfois paralysés devant ces questions. Alors, je vous l'accorde, on ne reste pas planté 2 heures devant sa penderie tous les matins à se demander « qu'est-ce que je vais me mettre ce matin ? Quelle est la volonté de Dieu pour moi en ce qui concerne mes habits ?» Mais honnêtement, il y a quand même des choix, des décisions qui vont avoir beaucoup d'importance pour le reste de notre vie. Pensez au mariage, pensez à votre boulot, pensez à votre logement. Et là, devant ces décisions, on peut se retrouver paralysé. On piétine, on fait du surplace, on prie. « Seigneur, quelle est ta volonté pour moi ?» Un jour, une maman demande à une autre « Et il en est où, Jérémy, dans ses études ?» Oh, il a recommencé une licence. L'autre maman, encore ? Mais c'est pas sa troisième première année ? Ça vous parle cet exemple de gens ? C'est malheureusement le cas de certains étudiants. On a tellement de choix et on manque parfois de lucidité pour effectuer un bon choix au point qu'on reste collé à la case départ. On n'a jamais réussi à trop démarrer, en fait, nos études. Trop de choix. Nous sommes paralysés parfois. Et enfin, troisième chose que peut révéler cette question, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie ? C'est parfois aussi, nous nous posons cette question parce que nous sommes peut-être trop préoccupés par nous-mêmes. Elle révèle parfois que nous sommes trop centrés sur nous-mêmes. Dans leur livre « The Gospel at Work »,« L'Évangile au travail », deux auteurs répondent à la question « Quel travail devrais-je faire ?» Et voici ce qu'ils écrivent. « C'est terrifiant de voir combien il est facile de tomber dans l'idolâtrie quand nous cherchons un travail. La recherche d'un travail devient une idole quand notre unique critère est la recherche de notre gloire et de notre honneur au lieu de la recherche de la gloire et de l'honneur de Dieu. » Que disent ces deux auteurs ? Qu'en fait, cette question « Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie ?» notamment en ce qui concerne un travail. En fait, cette question, ça peut être l'arbre qui cache en fait la forêt de choses peut-être pas très avouables. En fait, c'est une chose de se demander quel est le travail que Dieu que je fasse pour l'honorer, pour le glorifier, pour être à son service. C'en est une autre de chercher le poste parfait qui me met en valeur et où je suis gratifié. En fait, il y a une ligne subtile entre les deux. Et ce que je suggère, c'est que tout comme un trou dans une pomme révèle la présence d'un ver à l'intérieur, la manière dont nous nous posons cette question, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie ? En fait, cette manière de poser cette question peut révéler en fait une trop grande préoccupation de nous-mêmes, de notre confort, de notre sécurité personnelle. Allez, je vous rentre un peu dedans. Avouons-le, on est quand même un peu nombriliste, parfois. Dans les années 1970, le sociologue américain Christopher Lasch dénonçait dans un essai magistral la culture du narcissisme, l'invasion de la société par le moi. À ce sujet, une journaliste écrit « Le constat a depuis été amplement confirmé et pas seulement aux États-Unis. Les petits et grands narcisses prolifèrent, sacrifiant d'un même élan à la culture moderne de l'image, dont les fameux selfies offre le plus spectaculaire échantillon. » Permettez-moi de jouer un peu avec cette idée du selfie. Je nous pose la question, est-il possible que notre pomme ait aussi un trou? Qu'en posant la question, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie, nous soyons en train de prendre un selfie de nous en nous demandant, et Dieu là-dedans, en fait, où est-ce qu'il pourrait s'intégrer dans ce selfie de moi? Est-il possible que dans cette culture du selfie, où on aime être liké, commenté, retweeté, snappé, que nous soyons aussi atteints par cette maladie du narcissisme version évangélique 2.0? Est-il possible que de notre bouche, nous confessons que nous voulons tout faire pour la gloire de Dieu, alors qu'en réalité, dans nos actions, dans nos pensées, en fait, on est préoccupé par notre propre confort et par notre épanouissement personnel? Est-il possible que nous ayons enveloppé notre narcissisme d'un vernis spirituel? Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Il y a quelques années, j'étais au lycée et j'avais aucune idée de ce que j'allais faire les 3-5 prochaines années de ma vie. Et je priais comme un dingue, « Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie ?» Et un jour, un ami m'a dit un truc qui m'a scotché, qui est resté gravé dans ma mémoire. Il m'a dit, tu veux connaître la volonté de Dieu? Regarde 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Qu'est-ce que tu lis? La volonté de Dieu, et là mes yeux s'écarquillent, enfin la lumière va arriver. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et bien ce jour-là, ce verset, il a opéré un changement radical dans ma mentalité. En fait, ce jour-là, j'ai réalisé une chose, que je n'étais pas en train de rechercher les choses essentielles que Dieu voulait, à savoir ma sainteté personnelle. Au lieu de me préoccuper de son plan, de ce qu'il avait à cœur pour moi, en fait, j'étais trop préoccupé par moi-même, mon succès, ma réussite personnelle et professionnelle. Notre recherche de la volonté spécifique de Dieu pour notre vie et notre refus de prendre des décisions sont parfois en fait le reflet de notre narcissisme et de notre goût immodéré pour notre confort et notre plaisir. Nous prenons des selfies de nous et nous demandons à Dieu, « Ok, où est-ce que tu t'intègres en fait là-dedans ?» Voilà le diagnostic. On se pose peut-être mal la question « Quelle est la volonté de Dieu ?» pour ma vie. Alors, quel est donc le remède, finalement, pour pouvoir répondre à cette préoccupation de la volonté de Dieu? Le remède, ce que je suggère, c'est qu'il faut démarrer avec Dieu. Au lieu de se poser la question « Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie ?», on devrait démarrer avec cette question « Qu'est-ce que Dieu veut, tout simplement ?» Pourquoi ? Parce que l'Évangile renverse notre monde. Il renverse nos priorités. Devenir chrétien, c'est passer du « je, tu, il » à « il, tu, je ». Où « je » c'est moi, « tu » c'est l'autre, le prochain, et « il » c'est Dieu. Quand on ne connaît pas Dieu, on pense d'abord à soi, à ma vie, et puis parfois il y a « tu », l'autre, et puis enfin, Dieu, si on s'y intéresse. Mais l'Évangile opère un changement radical. C'est Dieu qui prend la première place. C'est lui qui devient la base, le fondement de ma vie. Et puis après, je m'intéresse à l'autre. Et puis enfin, Dieu dit qu'il prend soin de moi. Donc démarrons avec cette question. qu'est-ce que Dieu, lui, d'abord, il fait dans le monde ? Au lieu de savoir ce que Dieu veut pour ma vie maintenant, prochaine étape dans ma vie, qu'est-ce que lui, Dieu, il fait plus généralement ? Qu'est-ce qui le préoccupe, lui ? En fait, le premier problème, si vous suivez, qu'on a identifié dans la première partie, c'est vraiment qu'il y a trop de choix et on est bloqué. Alors on prend des selfies de nous et on demande à Dieu où est-ce qu'il peut bien aller dans cette photo, alors que la Bible fait, elle, l'inverse. En fait, elle prend une magnifique photo de Dieu, de son plan pour le monde, et elle nous invite à nous demander, ok, alors comment je m'insère dans cette photo grand format du plan de Dieu ? Dieu a un plan. Et quand la Bible nous parle de la volonté de Dieu, elle nous dit deux choses. D'une part, elle nous dit que le plan de Dieu s'accomplit toujours. On parle de la volonté décrétive de Dieu. La volonté décrétive de Dieu. Dieu a un plan. Éphésiens chapitre 1, verset 11. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté. Donc Dieu a un plan. Dieu accomplit des choses et rien ne peut entraver sa progression. Ésaïe chapitre 46, versets 9 et 10 nous dit la chose suivante. Souvenez-vous des tout premiers événements. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Dieu a un plan et ce plan s'accomplit toujours. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que nous avons connaissance de ce plan ? À votre avis, le plan de Dieu, est-ce qu'on y a accès ? La réponse, c'est oui, mais seulement a posteriori. C'est-à-dire que nous pouvons connaître la volonté décrétive de Dieu dans la mesure de ce que Dieu nous a révélé dans sa parole. Par exemple, la volonté de Dieu est de tout réunir dans l'univers sous l'autorité de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, versets 9 à 10. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Et voici un autre verset qui lui est semblable, en 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Voilà le plan de Dieu. Voilà ce que Dieu est en train de faire dans le monde. Je ne sais pas si vous êtes posé la question ce matin, mais qu'est-ce qu'il y a sur le Google Agenda de Dieu aujourd'hui ? Ben là, c'est ce qu'il est en train de faire actuellement dans le monde. Dieu, en Jésus-Christ, est en train de tout réunir sous ses pieds. Il veut que tout genou fléchisse devant le Messie Jésus-Christ. Voilà ce qu'il veut. Et ça, c'est son plan pour l'humanité globale. Ça, c'est ce qui le préoccupe, lui. Et il y a plusieurs aspects de ce plan, en fait, que nous ne connaissons pas. Dans quelques instants, nous allons avoir un temps d'échange. Et j'aimerais vous dire déjà que, en fait, je n'aurai pas forcément toutes les réponses concernant le plan de Dieu parce que Dieu garde pour lui certains aspects de ce plan, comment ce plan se manifeste. Deutéronome chapitre 29, verset 28 nous dit la chose suivante. Les choses cachées sont pour l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. En fait, il y a une distinction fondamentale entre Dieu, le Créateur, et l'homme, la créature. Et il y a des choses que Dieu sait, qu'il garde pour lui, qu'il ne révèle pas forcément à sa créature. Mais ce que nous savons, c'est que aujourd'hui même, à Pâques 2017, le plan de Dieu est en train de s'accomplir. Il fait avancer son plan. Des hommes et des femmes fléchissent le genou devant l'autorité de Jésus-Christ. Ça, c'est la photo grand format. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est l'évangile. Et c'est ce qui se déroule actuellement dans le monde. Ce qui m'amène à vous poser une question personnelle. Est-ce que vous êtes sur cette photo grand format? Est-ce que ce plan, l'évangile, est-ce que c'est ce qui captive votre attention? Est-ce que c'est ce qui vous préoccupe, vous, actuellement? Bien entendu, vous pouviez répondre, bah bien sûr, Aurélien, je suis grandi. Ou, oui, j'ai grandi dans une famille chrétienne, je connais ces trucs depuis que je suis tout petit. Ou, mais oui, d'ailleurs, je suis bien impliqué dans mon groupe de jeunes. Oui, mais est-ce que cet évangile, ce plan, est-ce qu'il est vraiment, réellement en train de changer ta vie? Est-ce que tu es en train de réagencer ton existence autour de ce plan-là? Ou est-ce que tu es en train de faire un selfie de toi et d'essayer d'intégrer Dieu dans quelques domaines de ta vie? Ça, c'est ce qui rend Jésus tellement important. Quand Jésus entre dans notre vie, il change le centre de notre existence. Si l'évangile est vrai, alors ça va changer les choses que je crois, pense, dis et fais. Ce qui est éternel prend toute la place de notre présent. Ça change mes priorités, ce que je chéris le plus, ça change la façon dont je me regarde et de la façon dont j'interagis avec les autres. Ça change la manière dont j'investis mon temps et mon argent, et ça change ce que je regarde sur Netflix, poste sur Facebook et recherche aussi dans Google. Dieu prend la première place dans ma vie, ça change toutes mes priorités et toute ma vie se réagence autour de ce plan vital au cœur de l'univers, le plan de Dieu. Voyez, si l'évangile est vrai, nos vies ne peuvent plus rester les mêmes. Quand Jésus entre en nous, on devient les membres d'un nouveau peuple, une tribu contre-culturelle qui refuse le statu quo, les stéréotypes et le narcissisme ambiant. Commencer avec le plan de Dieu, par ce qui le préoccupe lui, nous permet de régler plus facilement certaines questions. Si c'est la mission de Dieu qui est prioritaire, alors peu importe les études et le boulot que tu vas faire. Dans quelques instants, je te donnerai des pistes pour prendre des décisions par rapport à ça. Mais l'important, c'est que tu sois associé à ce grand plan de sauvetage. Donc, permette-moi encore de te poser cette question. Est-ce que tu as été vraiment, réellement transformé par l'évangile? Est-ce que tu intègres l'évangile dans ta vie ou est-ce que tu es en train encore d'insérer Dieu dans un selfie de toi pour te sentir bien? Pourquoi je vous pose cette question de l'évangile, la place de l'évangile dans votre vie, c'est parce que tôt ou tard, si vous n'avez pas été transformé par l'évangile, si le plan de Dieu n'a pas d'impact réel dans votre vie, alors ça va se voir. Ça va se voir parce que la deuxième chose qu'on apprend au sujet de la volonté de Dieu, c'est que l'évangile nous change au point que nous vivons d'une certaine manière. On parle ici de la volonté morale. Donc on a vu d'abord la volonté décrétive de Dieu. Dieu a un plan qui se réalise, qui s'accomplit. Et puis maintenant, on parle de la volonté morale de Dieu, c'est-à-dire d'un style de vie qui l'honore. Et ma question, c'est est-ce que nous avons accès à cette volonté morale de Dieu? La réponse est et oui, oui. Rappelez-vous, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, ce que Dieu veut. C'est votre progression dans la sainteté. Voyez, c'est simple, la volonté de Dieu. Placer notre confiance en Dieu et lui obéir, et ça y est, on est en plein dans sa volonté. Voilà ce qu'il attend de nous. Dans la bouche de Jésus, il le dit ainsi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà ce qui est vraiment fondamental pour Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire que Dieu est plus intéressé par ma sainteté personnelle que de me révéler si je dois me marier avec Martine ou Christine, deux jeunes femmes chrétiennes engagées absolument merveilleuses. Dieu est moins intéressé par mon choix de métier que de la manière dont je vais exercer ce métier. Ne pas frauder, ne pas voler mon employeur et me soumettre à lui. Dieu sera content du lieu et du pays dans lequel je vis, du moment que je souhaite me joindre à une église locale qui cherche à le connaître de plus en plus et à le faire connaître autour de cette église. Voyez concrètement dans la Bible, la volonté de Dieu, en fait, c'est pas une cible. Genre, il n'y a qu'une option dans ta vie et tu dois la trouver. Mais attention, hein, si tu te plantes, tu as raté la volonté de Dieu. Hein. Donc, il faut faire attention. Ça, c'est la volonté de Dieu version cible. Et donc, ça fait flipper les gens. Ça nous paralyse parce que genre, ah, si je suis pas sûr que c'est vraiment ce que Dieu veut, bah, j'ose pas me lancer. On retourne un peu dans la question de moi, ce qui ça me préoccupe et tout ça. Mais la volonté de Dieu dans la Bible, c'est pas une cible, c'est plutôt un champ. On est libre d'aller où on veut, du moment qu'on respecte la volonté morale de Dieu. On peut faire ce qu'on veut, du moment qu'on ne joue pas à la chèvre de Monsieur Seguin, qui sort du champ et va se faire bouffer par le loup. Augustin, un théologien du 4e siècle, dit ainsi, « aime Dieu et fais ce que tu veux. » Aime Dieu et fais ce que tu veux. Si on écoute Dieu, si on est réellement préoccupé par lui, par sa gloire, par son plan, alors on peut faire vraiment ce qu'on veut. On sera toujours dans sa volonté. Tu aimes les sciences physiques ? Ok, personne. Tu peux être astronome ou ingénieur mécanique, peu importe. Si tu fais bien ton boulot, si tu respectes la volonté morale de Dieu, tu seras dans sa volonté. Tu as une solide compréhension du mariage. C'est d'une bonne période de ta vie pour te marier. Tu as rencontré ce garçon qui te plaît énormément, qui aussi est chrétien, avec lequel vous partagez la même foi. Vas-y, tu peux te marier, tu es dans la volonté de Dieu. Il n'y a pas de risque de FOMO, the fear of missing out, la peur de rater des opportunités avec la volonté de Dieu. Voilà la clé pour arrêter de se préoccuper de la volonté de Dieu inutilement pour sa vie. Si on écoute Dieu dans sa parole, si on est réellement préoccupé par lui, par sa gloire, par son plan, alors on peut faire ce qu'on veut, on sera toujours dans sa volonté. Et ça, c'est libérateur. Et peut-être certains, vous êtes en train de dire, c'est pas vrai, c'est pas possible. Il y a un truc. Ça a l'air trop simple. Et c'est tellement excitant. Mais Dieu veut qu'on utilise notre tête. Il veut qu'on puisse faire des choix, qu'il soit sage, qu'il soit intelligent. Et donc c'est ça qui est extraordinaire avec lui, c'est qu'il nous guide. Il a un plan pour nous, mais en même temps, bon, ça c'est absolument incroyable, il veut que nous fassions des choix, que nous prenions des décisions en comptant sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire selon la Bible ? En fait, il n'y a pas à chercher une volonté spécifique de Dieu pour les grandes décisions de la vie. Dieu n'est pas la NSA, la National Security Agency, détenant des informations secrètes qu'elle refuserait de communiquer au monde. Parce que, en fait, si nous cherchons une telle révélation, en fait, le constat qu'on va faire vite, c'est qu'on va perdre beaucoup de temps. Et puis aussi, on risque de beaucoup flipper, parce qu'on n'est jamais trop sûr si, oui, eh bien, on est dans la volonté de Dieu. Et nous n'allons pas non plus grandir en sagesse et en maturité spirituelle, ce que Dieu voudrait pour nous. D'ailleurs, je souligne juste un petit point par rapport à cette question de la volonté spécifique de Dieu. Je crois que les gens qui sont à la recherche de la volonté spécifique de Dieu, je les soupçonne de ne pas être très cohérentes. Qui s'est levé ce matin pour demander la volonté de Dieu concernant le choix de ses chaussettes ? Personne. On rit. C'est parce qu'on comprend que cette vision de la volonté de Dieu, en fait, elle n'est pas très cohérente. En fait, elle est juste, elle concerne juste quelques questions de notre existence, des décisions importantes. Et je ne veux pas du tout le négliger. C'est des décisions importantes qui vont avoir des implications pour le reste de notre existence. Mais cette vision de, qui consiste à dire voilà, Dieu me révèle tout au fur et à mesure, il suffit juste que je lui demande, en fait, n'est pas très cohérente. Résumons. Dieu a-t-il un plan pour ma vie? Oui, ça c'est certain. Il fait tout ce qu'il veut, selon son bon plaisir, et il le fait pour le bien de son peuple, de l'Église. Et Dieu veut-il spécifiquement me révéler ce plan? La réponse est non. Donc on a vu le problème, on a compris la solution. Ok, mais soyons honnêtes. Prendre une bonne décision face à une alternative reste quand même un peu compliqué. Hein, y a quand même beaucoup de choix et beaucoup de décisions à faire. Alors, dernier point, comment allons-nous faire de bons choix? Puisque le Seigneur ne nous révèle pas sa volonté en ce qui concerne nos décisions personnelles et qui ne concerne pas sa volonté morale, notre style de vie, comment prendre de bonnes décisions? Comment plaire à Dieu dans nos choix? Et en fait, Dieu nous propose plusieurs pistes pour nous aider à comprendre son plan pour nous. Vous l'aurez compris, il ne s'attend pas à ce que nous recherchions une volonté spécifique, mais que nous fassions preuve de sagesse. Et la première piste, la première chose vitale, le X factor, c'est la Bible, la parole de Dieu. Parce qu'elle révèle ce que Dieu veut. Ses commandements, ce sont ce que Dieu veut. Un exemple avec Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 18. « Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. » La volonté de Dieu ici, c'est pas de discerner quelle décision prendre, mais d'obéir à des commandements clairs. Ne vous enivrez pas de vin. Je me demande si vous obéissez à ça le jeudi soir. Si vous n'obéissez pas à ce commandement, j'ai le regret de vous informer que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Un autre verset. Un verset d'ailleurs qui pourrait donner l'impression qu'on doit chercher un plan individuel pour nos décisions. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ici, discerner la volonté de Dieu a plus le sens d'expérimenter, de vivre cette volonté de Dieu qu'on sait bonne, agréable et parfaite. Comment on le sait? En faisant deux choses, deux impératifs dans ce texte. En ne se conformant pas au monde présent, à la culture, à ses idées, à ses mensonges, mais en se laissant renouveler dans notre intelligence, en se laissant recâbler par la parole de Dieu, afin de pouvoir vivre la volonté morale de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu utilise sa parole correctement interprétée pour nous diriger, et il ne nous dirige jamais contre ce qu'il dit dans cette parole. Dieu ne se contredit pas par rapport à ce qu'il a déjà dit dans sa parole. Parfois, la Bible est très claire en ce qui concerne une décision. Ne vous enivrez pas de bain. Qu'est-ce que je vais faire jeudi soir? Je vais refuser un deuxième verre d'alcool, par exemple. Mais lorsqu'elle ne l'est pas, il y a quand même parfois un principe biblique à appliquer à notre situation. Et même si la Bible ne nous donne pas de révélation spécifique pour chaque situation, elle contient toute la volonté morale de Dieu. Et cela suffit. Quand Jésus s'adresse à ses disciples en Jean 16, au moment où il est dans la chambre haute, quelques moments avant sa crucifixion, Il leur dit qu'il leur enverra le Consolateur, le Saint-Esprit. Il leur annoncera toute la vérité. Et donc, toute la vérité, c'est tout ce que les apôtres nous ont donné dans cette Bible. Et tout cela suffit pour nous guider. Ça, c'est la première chose, la parole de Dieu. La deuxième chose, c'est les désirs de notre cœur ainsi que notre raison. Bien sûr, je ne parle pas ici de la raison sans Dieu, mais d'un jugement saint dans le contexte de la foi en Dieu. Le roi David a exhorté « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et là, on dit « Youhou !» Mais la deuxième partie de ce verset repose sur la première partie « Fais de l'Éternel tes délices. » En effet, je pourrais avoir des désirs, désir d'avoir une grosse voiture, avoir une maison avec une piscine et 10 jours de congé payés. Mais ce n'est pas de ces désirs que ce verset parle. Si notre passion et notre but sont de connaître Dieu, de l'aimer, de le glorifier de tout notre cœur, alors on ne désirera pas n'importe quoi, mais ce qui plaît à Dieu et ce qui est conforme à ce qu'il aime, lui. Attention, ceci ne veut pas dire que toutes mes intuitions ou tous mes désirs viennent de Dieu. Les impressions proviennent également aussi de ma chair, c'est-à-dire de mon péché, de Satan, de ma fatigue, d'un déséquilibre mental ou hormonal, ou parfois d'une maladie. Et donc, je peux avoir des désirs, et je dois utiliser ma tête, je dois utiliser mon cœur. Mais voici quelques tests pour savoir si ces désirs sont bons ou pas. Et si vous arrivez à suivre ce que je dis depuis le début, c'est qu'on va toujours revenir finalement à ce qui fait le fondement de notre foi. La question qu'on va se poser, c'est sont-ils ces désirs, sont-ils en accord avec la parole de Dieu ou sont-ils en contradiction avec la Bible ? Et surtout, est-ce que, ça c'est la deuxième question, est-ce que ça va glorifier Dieu ? On revient toujours à la Bible et on s'examine soi-même par rapport à cette parole qui est supérieure à mes sentiments, à mon expérience personnelle, aux mensonges de la culture. Cette parole, c'est le filtre pour savoir aussi si mes désirs sont en accord avec la volonté morale de Dieu. La Bible, les désirs de mon cœur. Troisièmement, la prière. On ne prie pas pour que Dieu révèle son plan à l'avance, mais plutôt qu'il nous donne la sagesse dans les décisions. Jacques chapitre 1 verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous librement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. On prie, on demande à Dieu de l'aide, et puis on prend une décision en comptant sur sa souveraineté. On demande aussi à Dieu qu'il accomplisse ce qu'il veut dans notre vie à travers les décisions prises. Et évidemment, le fait d'avoir prié ne justifie pas chaque décision qu'on prend. Et bien sûr, une porte qui s'ouvre, on l'entend parfois dans notre jargon, on l'utilise, une porte qui s'ouvre ne va pas nous assurer que le chemin sera paisible et sans souffrance. Dieu peut très bien nous guider aussi vers des endroits où on ne va pas forcément rencontrer la réussite et le succès, parce que Dieu est plus intéressé par notre sainteté personnelle, par notre sanctification. Il veut que nous changions, que nous soyons transformés à l'image de son Fils Jésus-Christ, plus que par notre succès et notre réussite. Voilà ce qui le préoccupe, lui. Là, c'était troisièmement la prière. Quatrièmement, le conseil des autres. Salomon nous exhorte à ne pas prendre des décisions tout seul. Proverbe chapitre 15, verset 22, les projets échouent faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Proverbe chapitre 12, verset 15, la voie de l'insensé est droite, à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Proverbe chapitre 12, verset 15. Écoutons les conseils de nos amis. De nos amis plus matures que nous dans la foi, de nos aînés, de personnes de confiance dans notre église, comme un pasteur ou un ancien, c'est-à-dire un responsable de notre assemblée. Je vous recommande d'éviter les personnes qui vont vous dire ce qu'ils pensent que vous auriez envie d'entendre, d'éviter les personnes qui vont de toute façon approuver votre conduite, quelle qu'elle soit, d'éviter les personnes qui prendraient aussi des décisions à votre place, qui saperaient votre responsabilité et votre autonomie en vous évitant de prendre vos responsabilités. Non, recherchez des conseils de personnes de confiance qui seront vous aiguiller, peut-être vous secouer ou vous remettre en question. Je ne suis pas en train de dire que ces conseils vont être infaillibles, mais ils peuvent confirmer la sagesse de nos décisions ou donner un signal d'alarme. Avec mon épouse, on accompagne des jeunes couples qui sont fiancés, qui vont se marier, et c'est une occasion incroyable de pouvoir discuter justement sur ces questions-là, de poser peut-être des questions qui n'ont pas pu encore être abordées par le couple, de les aider à réfléchir sur ces questions avant de s'engager dans le mariage. Ça permet aussi d'aider ces jeunes couples à voir peut-être des angles morts. Vous voyez ce que c'est un angle mort dans une voiture? C'est un moment quand la voiture nous double, en fait, où on ne la voit pas dans le rétroviseur parce qu'elle est dans notre angle mort. Et des fois, on a des idées, on a discerné des choses, mais on n'a pas tout vu. Et de pouvoir écouter les conseils des autres, ça nous aide aussi à avoir une autre perspective ou avoir des angles morts. Je ne suis pas conseiller d'orientation, mais par contre, ce que je remarque, c'est que beaucoup d'entre nous, alors si vous êtes lycéen et aussi étudiant, on ne se connaît pas très bien et on a du mal à savoir... qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans ma vie, dans mon travail et tout ça. Et on aurait aussi intérêt des fois de s'approcher de personnes qui peuvent nous aider à mieux nous connaître pour faire un choix vers des études ou une carrière qui vont nous correspondre en fait. Tout ceci, ce n'est pas pour nous dire que ça va être plus facile, qu'on va toujours rencontrer le succès, la réussite quand on l'aura fait. Mais ça peut nous aider à faire un choix qui est sage et ça rentre dans cette catégorie du conseil des autres. On a vu la Bible, on a vu les désirs de notre cœur, la prière, le conseil et cinquièmement et dernièrement, les circonstances. Ces circonstances ne sont pas des signes qui permettraient de discerner la volonté de Dieu, mais plutôt de comprendre après coup le déroulement de ce plan. Et regardons en fait deux exemples bibliques. Certains Éphésiens, par exemple, voulaient que Paul reste dans leur ville. Mais Paul avait l'intention de continuer sa route. Voici ce qu'il leur a répondu. « Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » D'autres traductions disent « Je reviendrai vers vous si c'est la volonté de Dieu. » Paul ne savait pas si Dieu lui permettrait de revenir ou non. Dieu est souverain et contrôle toutes nos circonstances pour accomplir son plan. Et donc on ne doit pas lire les circonstances comme des panneaux indicateurs qui pointent vers une volonté spécifique de Dieu pour nous. En fait, Jacques, dans ce deuxième exemple biblique, nous montre la bonne attitude à avoir face aux circonstances de la vie que Dieu contrôle. En gros, agissez et laissez la suite à Dieu. À vous maintenant qui dites, et ça c'est Jacques chapitre 4, verset 13 à 16. À vous maintenant qui dites « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. » Vous qui ne savez pas ce que votre vie de demain sera faite, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire « Si le Seigneur veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » planifiez avec humilité votre vie, sachant que Dieu dirige toutes choses. Si le Seigneur veut, il y aura la réussite de ce projet particulier qui te tient à cœur. Dieu va ouvrir ou va fermer des portes. Comme dit Paul quand il écrit aux Corinthiens, « J'irai chez vous plus tard. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte s'est ouverte, toute grande à mon activité, et les adversaires sont nombreux. » Donc Paul a décidé de changer ses plans parce qu'il a vu une opportunité. Et donc, il a voulu y rester plus longtemps à Éphèse, vu les circonstances, et sans avoir eu de révélation particulière. Il faut ajouter ici qu'une porte ouverte, encore une fois, ce n'est pas du tout un signe de Dieu. Paul n'est pas passé par une porte ouverte pour l'évangile, parce qu'il y avait d'autres considérations plus importantes. Conclusion. Arrêtons de nous préoccuper de la volonté de Dieu pour notre vie et mettons-nous à l'écouter. Il est temps d'arrêter de stagner, de faire du surplace et de prendre courage et d'oser prendre une décision. Dieu ne nous a pas créés pour faire de nous ses jouets, ses marionnettes. Il veut faire de nous des êtres libres de l'aimer, de le servir, d'utiliser notre intelligence, nos dons, nos qualités pour le servir. Et donc, quand il s'agit de prendre une grande décision dans la vie, voici comment on peut résumer le processus. Quand Dieu commande, nous devons obéir. Première chose, quand Dieu commande, nous devons obéir. Deuxième chose, quand il n'y a pas de commandement, Dieu nous donne la liberté, la responsabilité et la sagesse. Deuxièmement, quand il n'y a pas de commandement, Dieu nous donne la liberté, la responsabilité et la sagesse. Troisièmement, une fois la décision prise, nous devons nous confier dans le Dieu souverain qui contrôle les circonstances. Ça, c'est important de bien comprendre ces choses pour être en paix avec les décisions que nous allons prendre en ce qui concerne le mariage, le travail, les études, etc. N'ayez pas de culpabilité ou d'inquiétude d'avoir raté la volonté de Dieu. Ce n'est pas une cible, c'est un champ et vous avez de la liberté. Exercez-la. N'ayez pas de frustration et d'attente irréaliste en espérant voir un signe qui descend du ciel et qui éclaire ce bel âtre ou cette fille magnifique qui sera votre épouse. Ayez moins d'hésitation en prenant vos décisions. Un pasteur conclut sur cette question de la manière suivante, et c'est aussi ma conclusion finale. Pour les grandes décisions de la vie, vous voulez connaître la volonté de Dieu? Faites un choix.